Le débat du jour. Nathanaël Vitran.
C'était le 4 mars dernier, une journée particulière en Italie. Les élections générales dominées par deux partis anti-système. La Ligue à l'extrême droite et le Mouvement 5 étoiles, parti plus inclassable mais résolument anti-européen, anti-austérité. Au nom du peuple italien, leurs dirigeants ont tenté d'imposer à la présidence du Conseil l'économiste Giuseppe Conte et surtout au poste clé du ministère de l'économie, Paolo Savona, vieux briscard de la politique italienne qui n'a de cesse de dénoncer tous ceux forcément affreux, sales et méchants qui depuis Bruxelles impose leur diktat à Rome. Veto du président italien Sergio Mattarella, c'était le week-end dernier, autant dire il y a un siècle. Depuis, on assiste à un mauvais remake du bon, la brute et le truand, chacun dans ce psychodrame italien s'attribuant le beau rôle. Au cri d'Orphée de Matteo Salvini, le patron de la Ligue, et de Luigi Di Maio, celui du mouvement 5 étoiles, le président italien répond qu'il est le garant de la Constitution. Pas question pour le chef de l'État de se lancer dans l'aventura d'une possible sortie de l'euro sans avoir auparavant consulté les électeurs sur cette question précise. On se dirige donc à court ou à moyen terme vers de nouvelles élections. Y a-t-il un risque qu'entre Rome et Bruxelles, les électeurs choisissent un divorce à l'italienne? C'est notre débat du jour. Soyez les bienvenus. Et pour en parler en ligne, en studio, avec nous, Francesco Saraceno, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur à l'OFCE, membre du conseil scientifique de l'Université libre des sciences économiques et sociales à Rome. Et vous avez publié L'économie à l'épreuve des faits, comprendre les controverses du passé pour éclairer les défis de la société. C'est aux éditions RB. Face à vous, Frédéric Attal, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Valenciennes, spécialiste de l'Italie. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. D'abord, ce n'est pas la première crise politique en Italie, loin s'en faut. Est-ce que c'est la plus grave, toutefois, à vos yeux? Frédéric Attal.
C'est vrai, on va dire, c'est le regard de l'historien. Je dirais pas que c'est le plus grave. Quand on sait qu'il y a exactement 40 ans, on a connu l'enlèvement d'Aldo Moro et l'assassinat d'Aldo Moro, très franchement, l'Italie s'en est sortie, enfin, si on peut dire. Enfin, c'était quand même une énorme tragédie. Il faut voir qu'il y a eu les attentats contre Falcone et de la mafia. Donc, je crois qu'il faut, on va dire, comme disent les Italiens, redimensionner un petit peu ce psychodrame. N'exagérons rien, on n'est pas quand même dans une situation aussi épouvantable qu'il y a 40 ans. Mais du point de vue institutionnel, c'est quand même inquiétant, mais je pense que ça dépasse le cas de l'Italie.
Francesco Saraceno.
Je suis assez d'accord, l'Italie a malheureusement connu beaucoup de travers dans son histoire, et c'est un pays turbulent, il a toujours été turbulent, on a des institutions qui ont résisté à des chocs. Il y a une différence par rapport au passé, aux événements, on aurait aussi pu mentionner la Loggia P2, qui a été un moment où on a vraiment risqué le collapse des institutions démocratiques italiennes. La seule différence, c'est que cette fois-ci, la société italienne est ébranlée et la classe politique est ébranlée. C'est-à-dire tous ces défis que vous mentionnez avant ont vu une réponse unie de la société, de la politique italienne. Aujourd'hui, on est dans une situation de division qui est vraiment effarante. Ça rappelle un peu ce qui s'est passé avec le Brexit au Royaume-Uni, un pays divisé en deux, en fait. Et ça, c'est angoissant, je dirais.
Oui. Frédéric Attal, jamais l'Italie n'a été aussi divisée.
C'est vrai, alors là, je suis d'accord avec Francesco, c'est-à-dire qu'il y avait quand même une union derrière le défi terroriste, comme il y a une union derrière tout défi terroriste, comme on le voit aussi en France. Là, il s'agit d'une division, j'ajouterais une dimension supplémentaire, jamais peut-être les institutions, de manière générale, n'ont été aussi contestées. C'est quand même rare et grave, je pense, de dire, même s'il est revenu en arrière, pour Di Maio, le chef du Mouvement 5 étoiles, nous allons demander la destitution du chef de l'État. Alors qu'il joue son rôle constitutionnel quand même.
Justement, c'est la question que j'allais vous poser.
Mais c'est rare qu'on l'entende, ça.
Le président italien Sergio Mattarella, accusé d'avoir outrepassé ses fonctions. La Ligue appelle à sa destitution. Le Mouvement 5 étoiles dénonce un déni de démocratie. Il était bien dans son rôle pour vous, Frédéric Attal?
Pour moi, oui. Et alors là, on peut donner vraiment de nombreux cas où le président de la République a joué un rôle. Je crois qu'on se fait une image un peu fausse parfois en France, parce qu'on a le système de la Ve République. C'est vrai que l'Italie n'a pas le système de la Ve, mais le président a un pouvoir. D'abord, c'est lui qui nomme le Premier ministre. C'est son rôle. Et parfois, et très souvent d'ailleurs dans l'histoire, ça peut être un peu une surprise. Puis que le président intervienne parfois dans la politique étrangère, certainement. Mais là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi, il y a un ministre que je ne veux pas. C'est le ministre de l'économie. Pourquoi le dit-il? Parce qu'il y a des traités à respecter et je suis garant de cela. Donc ça a été dit d'ailleurs par les commentateurs, les constitutionnistes italiens. Alors je ne sais pas ce que Francesco en pense, mais il était selon moi parfaitement dans son rôle. D'ailleurs, retour en arrière hein, ces derniers temps. Di Maio a fait un pas en retrait en disant non, on ne demande plus ça, j'ai peut-être fait une erreur. Il dit on a tous fait des erreurs et on est sur une autre perspective.
Francesco Saraceno sur cette question.
Je rejoins l'analyse. Il y a, moi, je pense ceux qui ont écrit la carte constitutionnelle dans les années 40 connaissaient l'italien et connaissaient leur métier. Et donc, chaque fois qu'ils ont voulu ne pas être ambigus, ils ont été très clairs dans la rédaction de la carte. Cet article-là, que c'est l'article qui dit que le président nomme, sur indication du Premier ministre, les ministres, il est ambigu, parce que nommer, ça peut vouloir dire il ratifie les choix du Premier ministre, ou ça peut vouloir dire il nomme. Mmh. Et différents présidents ont interprété de façon différente cette prérogative du ministre. Donc, il y a, de ce point de vue-là, il n'a pas tordu la carte constitutionnelle, et je suis totalement d'accord. C'est un peu plus délicat parce que, en fait, la raison pour laquelle il peut refuser de nommer un ministre, c'est parce que il ne garantit pas la constitution. Et donc, la question qu'il faut se poser, est-ce que le refus de nommer Paolo Savona, qui est par ailleurs un homme respectable, même si avec quelques idées, comme vous avez dit avant, un peu controversées, est un choix politique qu'a fait les présidents. Du coup, ça peut se discuter, ou c'est parce qu'ils pensent que l'appartenance à la zone euro et l'adhésion de l'Italie aux traités internationaux fait désormais partie des acquis constitutionnels que lui doit protéger. Donc, est-ce qu'on peut débattre de l'euro ou pas en Italie? Et c'est ça où ça a un peu chauffé dans les débats dans ces derniers jours. Et moi, personnellement, je pense qu'on peut débattre de l'euro, mais je pense aussi que c'est vrai qu'il y a une grosse ambiguïté de deux parties que vous avez définies eurosceptiques, mais qui avaient complètement mis à côté la question de l'euro pendant la campagne. Et donc, on ne peut pas, si on débat, et là, Mattarella a totalement raison, si on veut en débattre, on peut en débattre, mais il faut le faire à la lumière du jour et pendant la campagne électorale, pas après.
Si je peux me permettre, on va presque renverser la question. C'est-à-dire, pourquoi on a tellement insisté sur l'aspect institutionnel du président de la République? Et moi, je vais renverser les choses. Pourquoi insiste-t-il tellement, le mouvement 5 étoiles et la Ligue, pour que Savona soit ministre? Après tout, ils ont le contrat gouvernement. Le Premier ministre, et c'est le rôle du Président de la République de le nommer, mais le Président de la République a dit « Ok pour Giuseppe Conte, donc pas de problème ». Là, il dit « J'ai des problèmes avec Savona ». Si véritablement ils veulent absolument former un gouvernement, avec leur programme, Savona n'est pas... Enfin, ils pouvaient le remplacer. D'ailleurs, ils avaient d'autres choix. Ils l'ont trouvé, je crois, quelques semaines à peine, enfin quelques jours avant la demande en constitution. Moi, j'ai envie de dire, peut-être que l'aspect institutionnel que les deux partis principaux mettent en avant... C'est l'arbre qui cache la forêt d'un...
C'est-à-dire qu'ils auraient joué sur ce refus, ce veto du président qu'on attendait.
En tout cas, je ne comprends pas leur insistance. Ça a été dit par certains commentateurs en Italie. Et c'est vrai qu'on pourrait dire, bon, ben, on va s'arranger. Du moment qu'on a notre président du Conseil et notre programme, on va proposer un autre homme. Cette insistance paraît quand même un petit peu délicate, on va dire.
Un peu louche. Vous voulez réagir
Non, si je peux ajouter un autre élément, c'est le président de la République a proposé, en fait, de façon formelle, parce que c'est pas lui de proposer officiellement, il a proposé que la Ligue mette à la place de Savona le numéro 2 de la Ligue, qui est un politique respecté, respectable, il s'appelle Giorgetti. Et du coup, on comprend pas pourquoi la Ligue aurait refusé, ils auraient eu le ministre de l'Intérieur, Salvini, ils auraient eu le ministre de l'Économie. Donc, c'est clair que la Ligue a trouvé son compte du point de vue électoral, parce que depuis le 4 mars, la Ligue a monté énormément dans les sondages parce que Matteo Salvini n'a fait aucune faute communicative. Il a été exceptionnellement bon, tandis que le Mouvement 5 étoiles patine un peu dans les sondages. Du coup, peut-être la Ligue veut revoter aujourd'hui parce qu'elle pourrait probablement faire une OPA sur la droite et s'approcher beaucoup du Mouvement 5 étoiles.
C'est-à-dire qu'il y a un piège qui a été tendu à Sergio Mattarella, le président italien, en lui proposant un candidat au ministre de l'économie qu'il ne pouvait pas accepter, et donc en précipitant un retour aux urnes qui pourrait favoriser la Ligue aujourd'hui. C'est ce que vous nous expliquez l'un et l'autre?
J'irai pas jusqu'au piège, mais j'irai jusqu'au fait que la résistance de Mattarella a été tout de suite interprétée comme pratiquement une offense à la nouvelle coalition, ce que je trouve un petit peu curieux, voilà. Et donc, du coup, peut-être qu'en effet, il ne le pensait pas au départ, hein, que Mattarella allait refuser. Je ne sais pas, d'ailleurs. Il ne le pensait pas, mais du coup, ils en profitent.
Parce que dans la mesure, quand même, où 6 électeurs sur 10 en Italie soutenaient un gouvernement de coalition entre la Ligue et le Mouvement 5 étoiles dirigé par Conte, est-ce que Mattarella, là, ici, ne donne pas du grain à moudre à ceux qu'il cherchait à freiner?
Alors là, Francesco a fait une allusion au fait qu'il y a, en effet, on s'apatine du côté du Mouvement 5 étoiles dans les sondages. Il faudrait voir de près. Il y a eu donc plusieurs interventions et je suis assez d'accord pour dire il faudrait parler du mouvement 5 étoiles. Est-il de gauche ou pas ? C'est vrai que c'est difficile de dire que c'est un mouvement de gauche, mais par contre, une de ses bases électorales est de gauche. Du moins, il a récupéré une partie du Parti démocrate. Et je pense que c'est celle-ci qui, apparemment, d'après les sondages, aurait tendance un peu à manquer, on va dire, à être un peu déçu.
La perspective d'une alliance avec l'extrême droite a déçu ses électeurs ?
Une partie, alors pas tous, hein, je serais très prudent, mais quand même, il est clair que le Parti démocrate a perdu énormément de voix, c'est beaucoup, mais pas seulement, hein, au profit du mouvement 5 étoiles, je pense dans les régions du centre ou du centre-sud, et là, il y a une partie de ces personnes-là qui ne se retrouvent pas dans l'alliance avec la Ligue, et donc ils ont peut-être beaucoup à perdre au mouvement 5 étoiles s'il y avait de nouvelles élections.
Francesco Saraceno, pour avancer un petit peu, quand le président Mattarella refuse la nomination du ministre de l'économie qu'on évoquait tout à l'heure en disant que nommer un ministre de l'économie, c'est un message immédiat en direction des opérateurs économiques et financiers, est-ce qu'il ne donne pas un peu de grain à moudre à ceux qui, dans le sein du mouvement 5 étoiles ou de la Ligue, disent que l'Italie n'est plus souveraine aujourd'hui?
Oui, mais ça, c'est un débat qu'on a eu à l'époque de la Grèce aussi. C'est clair qu'aujourd'hui, les contraintes internationales sont telles que dès qu'on essaie de changer les politiques, il y a tout de suite une réaction qui est d'un côté des élites européennes et de l'autre des marchés qui s'inquiètent de l'incertitude. Et on passe un message qui est le message que vous dites. C'est-à-dire, faisons attention, parce que si on sort du chemin qu'on a parcouru jusque-là, les marchés vont nous punir, et c'est un peu ce qu'a dit Mattarella. Je trouve, de ce point de vue-là, de façon un peu maladroite, parce que c'est vrai qu'en ces moments-là, c'est des munitions qu'on donne aux populistes, et pas que en Italie. La solidarité qu'ont reçue 5 étoiles et la Ligue des autres partis populistes d'Europe, de Orban à Marine Le Pen, à Farage, au Front National, à le UKIP anglais, tous les populistes se sont ralliés tout de suite derrière. Il y a une tendance souverainiste en Europe qu'il faut ménager. Parmi autres choses aussi avec la communication, et ça c'est un peu maladroit, je suis d'accord avec vous.
Parce que Sergio Mattarella n'a pas été le seul à faire ce genre de remarques. Le commissaire européen au budget, l'allemand, en plus il est allemand, Günther Oettinger, qui dit « Les évolutions sur les marchés obligataires, la valeur marchande des banques, l'économie italienne en général, tout ça, bref, tout ça va influencer la campagne électorale en Italie, donner un signal aux électeurs. » Là aussi, est-ce que c'est pas maladroit ce genre de déclaration?
C'est à chaque fois, enfin je trouve, à peine, donc il y avait la formation de la coalition, bon, 5 étoiles, Ligue, qu'on a notre ministre de l'économie qui a réagi en disant attention, la commission de Bruxelles a réagi attention. En effet, pour dire les choses clairement, c'est de l'huile sur le feu. Alors je pense pas que c'est le mouvement 5 étoiles qui va peut-être gagner, mais de plus en plus la Ligue. Et après, je sais pas, mais c'est vraiment une question que je pose, y compris à Francesco. Qu'est-ce que veut faire la Ligue? Parce que je pense qu'elle a beaucoup tout à gagner. Est-ce que la Ligue va se servir comme argument de pression pour obtenir plus, ou va aller dans une tendance Brexit, enfin Italie?
Parce que la Ligue, on va le rappeler, a fait 17% aux dernières élections au sein d'une coalition qui en a fait 34, mais ils sont quand même à 17. C'est pas non plus.
On l'a crédit de 25 quasiment, je crois, au dernier sondage.
Le dernier sondage était 27.
Donc, 27 même.
Alors, donc c'est. Et tandis que les 5 étoiles qui étaient à 32 a baissé à 29, donc ils sont en fait à égalité. Et Berlusconi a pratiquement disparu, le Parti démocrate ne gagne pas, voire il perd quelque chose. Donc en fait, c'est complètement polarisé. Aujourd'hui, on a entre 55 et 60% de voix, intention de voix. Après, il faudra voir dans les urnes, c'est toujours un peu différent, qui sont pour des partis qui ont une tendance très populiste, même si très différenciée. Je suis très d'accord que les 5 étoiles très compliqué à classer dans les catégories standard droite-gauche. Hein. Il a pioché un peu partout et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est en difficulté, parce qu'il a pris une direction très de droite.
Que veut la Ligue, donc, si la Ligue a un peu parié sur cette petite crise institutionnelle pour gagner dans les sondages? Que veulent-ils au final?
Moi, je pense que je suis un économiste, je ne suis pas politiste, mais mon opinion des citoyens est que Salvini veut profiter de cette montée dans les sondages et possiblement dans les urnes pour faire une OPA sur la droite modérée, donc évacuer définitivement Berlusconi.
Forza Italia.
Forza Italia. Et du coup, avoir une coalition beaucoup plus idéologiquement uniforme, homogène, avec laquelle avoir un agenda qui est un agenda très sécuritaire, donc contre l'immigration, sur la sécurité, les ports d'armes, les slogans classiques de la droite. Pour ceux qui nous écoutent dans les pays francophones, en fait, les slogans de Salvini sont pratiquement les mêmes que ceux de Marine Le Pen. Donc, pour que les gens comprennent. Hein, c'est vraiment ce type-là de politique qu'on préconise.
Est-ce qu'il y avait vraiment un risque toutefois pour l'euro et pour l'Europe à voir cette coalition arriver au pouvoir en Italie, puisque c'est ce qui a suscité tant de levées de boucliers et en Europe et donc celle du président Mattarella?
La réponse serait à voir aussi en parallèle à ce qui se passe actuellement en Grande-Bretagne. On a vu que Theresa May demandait un délai de 3 ans pour finalement le Brexit. Est-ce que ça va pas faire reculer? Est-ce que c'est un moyen de pression? Moi, ce que je vois, c'est quand même il y a une posture anti-élite. Ça unit la Ligue et Mouvement 5 étoiles. Et les élites, c'est en partie Bruxelles, mais pas uniquement. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une menace. Je ne suis pas sûr du tout que ça soit d'ailleurs de l'intérêt de l'Italie de sortir de la monnaie unique. Bon, là, par contre, c'est moi qui ne suis pas économiste. Je peux pas tellement le dire, mais je vois mal l'Italie. Par contre, alors, si je raisonne de manière machiavélique, je ne sais pas si c'est le cas de la Ligue, hein, mais de manière machiavélique, il y a clairement une telle différence entre Nord et Sud. Et la Ligue, ça s'appelle plus Ligue du Nord, mais elle est quand même Ligue Nord dans son logiciel, oui, dans son ADN. Et Ligue du Nord, est-ce que à nouveau, comme il y a une vingtaine d'années, ou même pratiquement bientôt 30 ans, 25 ans, elle va dire mais c'est la faute du Sud, qu'on ne peut pas continuer comme ça, alors que nous, si nous étions tout seuls, c'est-à-dire Nord-Centre, on serait bien les meilleurs, pratiquement les meilleurs en Europe, en termes d'exportation, en termes de budget, etc. Est-ce que c'est pas un moyen de faire carrément à nouveau pression sur le Sud, soit pour faire plus qu'un régionalisme, une sorte de sécessionnisme, et dire mais on va rester dans l'euro, mais à condition que nous ayons, nous, les coudées franches.
Francesco Saraceno, ça n'était pas dans le programme ni de la Ligue, ni du Mouvement 5 étoiles, ni de leur coalition, la sortie de l'euro, la sortie de l'Union européenne. Pourquoi cette peur aujourd'hui, alors que ça n'était pas dans leur programme?
Partiellement pour le nom de Paolo Savona, parce que Savona est associé avec ce célèbre plan B dont on a beaucoup parlé, que c'est un plan assez farfelu par ailleurs, parce que ça prévoit quelques centaines de personnes qui en secret impriment de notes, des billets avant d'une sortie faite le vendredi après-midi à 18h, pendant que les gens prennent l'apéro et les marchés sont fermés. Donc le nom de Paolo Savona a ramené ça dans l'actualité. Du coup, on a commencé à regarder avec un peu plus de détails les programmes et les contrats, les célèbres contrats que les deux parties ont passé, sur lesquels ils se sont mis d'accord la semaine dernière. Et il y a beaucoup d'ambiguïté sur ça. Alors moi, je pense, pour compléter la réponse, qu'il n'y a pas un grand risque pour l'Europe. C'est-à-dire, comme tous les partis, surtout populistes qui viennent au pouvoir, ils auront, s'ils feront un gouvernement, à se confronter avec la réalité, avec toutes les contraintes que l'action politique pose. Du coup, ils ne feront pas tout ce qu'ils ont fait. Il y aura probablement des conséquences que moi personnellement, je pense seront très négatives pour l'économie et pour la société italienne, mais ils ne vont pas exploser pour autant la zone euro automatiquement. Ils seront un peu plus, peut-être, un peu moins coopératifs avec les institutions. Mais peut-être c'est même pas trop mal, parce que c'est vrai que l'Union européenne a été très très consensuelle, un peu trop consensuelle dans les années qui viennent de s'écouler. Pas forcément une catastrophe, ni un
tremblement de terre. Faudrait vous partager cet optimisme pour l'Union européenne, même s'ils arrivent au pouvoir avec plus de voix qu'ils en ont aujourd'hui.
Disons, on va dire à très court terme peut-être, mais à un moment donné, il faut en effet se poser quelques questions. Voilà, ça je le pense très clairement. L'Italie, bon, on va parvenir sur les poncifs, mais c'est vrai, l'Italie est un des pays les plus européistes qui a été. On a vu le déclin de la foi européenne italienne depuis une dizaine d'années, même ça remonte un tout petit peu, hein, c'est ce que le politologue Ilvo Diamanti avait relevé il n'y a pas si longtemps, qu'on est arrivé en quelque sorte à un étiage et ça remonte un petit peu. Mais l'Italie donc est un des piliers de la construction européenne. S'il y a un malaise à l'égard, en effet, de la façon dont est gérée l'Union européenne, il faudrait peut-être, à un moment donné, se poser quelques questions aussi du côté des Allemands. C'est vrai que l'Allemagne détient un certain nombre de clés.
Merci beaucoup Frédéric Attal, Francesco Saraceno d'avoir été avec nous. Francesco Saraceno, je rappelle que vous êtes chercheur à l'OFCE, membre du conseil scientifique de l'Université libre des sciences économiques et sociales à Rome. Frédéric Attal, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Valenciennes. Merci également à Florence Pons au service documentation de RFI pour leur aide précieuse dans la préparation de cette émission. Et à la réalisation, il y avait Hélène Avril. Merci aussi à elle. Le débat du jour à retrouver comme toujours sur Facebook et Twitter.